Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h01 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. En veille de 1er mai, on va se régaler pendant 2 heures. Et pourquoi émission exceptionnelle? Parce qu'on est en mode encore Coupe d'Europe aujourd'hui, demi-finale de la Conférence League pour un club français. Ah, on est fiers de voir Strasbourg ce soir jouer son match aller au Rayo Vallecano. On va en parler bien sûr dans l'émission, mais pas que, on va parler aussi du football français. Et on a beaucoup de monde autour du plateau pour en parler correctement et bien dans l'expertise. On est avec François Pinet, salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va François?
Oui, excité.
Oh, t'es en forme.
Demi-finale de Conference League. J'ai entendu certains dire que ça ne comptait pas, cette compétition. Il faut aller la gagner. Il faut aller la gagner, on en parlera bien sûr dans cette émission, tout au long de cette émission.
Exactement. Bon, pour en parler, on est avec un duo qui a fait mal à la Ligue 1. Ah oui, ah, ils ont marqué les esprits. Alors il y en a un il y a quelques années, vraiment quelques années.
Ouais, mais pas longtemps.
Bon, pas longtemps, c'est Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Mi.
C'était hier, bonjour messieurs.
Ça va Jean-Mi?
Enfin, je suis d'un certain âge, mais moi je prends pas des vacances en pleine saison.
Voilà, c'est pas faux, c'est vrai Jean-Michel. Hein, Benoît Boutron, on a une pensée pour lui.
Exactement.
On a
sympa pour Benoît Boutron ça.
Ouais. On est avec.
Mais c'est pas du tout à lui que
je pensais. Ah, je crois que c'était à lui, mais bon.
C'est bien sympa, Captain.
Écoute, on est avec notre Corse préféré. Bah, c'est Tony Vérel. Salut Tony.
Salut les amis, ça commence fort là. Hein.
Ah Tony.
Les vacances la semaine dernière pour toi.
Et... Pour qui?
Je sais pas. Mais où il était?
Pascal, ton Corse préféré?
Non, c'est Tony. Tony, il est dans la Corse, il est pas en Sardaigne comme Pascal.
Pascal nous écoute, il sera là demain.
Je suis en Corse d'adoption.
Mais oui, mais toi, t'es à Bastia, tu vois, c'est là que ça se passe en Corse.
Pascal n'est pas un vrai Corse, c'est ça? C'est ça que j'ai entendu. Pascal n'est pas un vrai Corse.
Je sais pas, moi, à Bastia, on m'a dit que. À Bastia, on m'a dit que.
Être terrible.
Non, à Bastia, on m'a dit que dès que tu passes le col de Corté, voilà, et ben tu arrives en Sardaigne. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Écoute, donc, Pascal est en Sardaigne.
Il n'y a plus en Corse. Hein.
Ah, mais si, à Bastia, je peux. Il ne faut pas que je passe le col.
Pas en dessous.
C'est ça.
En tout cas, on a compris. Quand Pascal Ometra sera là demain, il y aura un règlement de compte attendu dans Rotet sans flamme. En attendant,
il vient quand même.
Les amis, il sera là, peut-être, normalement.
Personne.
On t'embrasse, le sanglier.
En attendant, on a un programme de folie encore parce qu'on n'est pas vraiment redescendu de notre nuage, faut le dire, après ce match mardi entre le PSG et le Bayern. Donc on a envie d'entendre Captain, on a envie d'entendre Tony sur les émotions après ce match. On a une question à poser. Le foot de demain doit-il forcément ressembler à ce PSG-Bayern 32-16? Pour nous rejoindre dès maintenant, on en parle à 19h. Et puis on parlera aussi du match retour la semaine prochaine sans Hakimi. Le procès dans 30 minutes de ceux qui pensent que cette absence est une catastrophe pour le Paris Saint-Germain. On reviendra aussi sur le match d'hier entre l'Atlético de Madrid et Arsenal, et notamment sur le match d'Antoine Griezmann. C'était la dernière de Griezou au Metropolitano en Coupe d'Europe, et à 18h45, Edgar Grolot veut en parler, Jérôme, parce que pour Edgar, il a encore le niveau international, notre Griezou. Et puis bien sûr, on lance aussi cette demi-finale de Conference League, c'est ce qu'on vous disait, avec à 19h30 les dernières infos avant Rayo Vallecano, Strasbourg. On sera en direct de ce tout petit stade du Rayo où ça sent le piège, visiblement.
Le
rendez-vous
piège,
à 19h30.
Non, ça sent un match de Coupe d'Europe compliqué dans un petit stade.
On n'en
parlera certainement pas un piège en demi-finale de Coupe d'Europe. Tu te fais piéger en demi-finale de Coupe d'Europe.
Je sais pas, parce que c'est un tout petit stade.
Ah, d'accord, c'est un petit stade. Donc c'est des peintres en face.
On va voir. On en parlera à 19h30. En attendant, restez avec nous et surtout,
ramenez-nous Benoît,
pour jouer avec nous, on vous offre votre enceinte minotée de Lexon qui peut se transporter partout grâce à son mousqueton intégré. Non, j'entends même pas. Pour remporter votre enceinte Lexon, appelez le 32-16-4 ou envoyez quiz au 7-32-16. Quiz au 7-32-16. Allez, tout de suite, après le match de mardi, ce que je vous propose, c'est d'écouter en exclusivité la réaction de Didier Deschamps, on l'a jamais entendu après le match Bayern-PSG. Écoutez ça.
La Coupe du Monde, elle est divisée en deux avec les éliminations en direct.
Olise qui est trouvé à 30 mètres. Olise dans la surface de réparation. Maintenant, le but d'Olise.
Une frappe surpuissante de 35 mètres. Non, je rigole quand je dis surpuissante.
Doué à droite, ballon servi, Doué
Deuxième mi-temps, on a mis plus de dynamisme dans le train. La ligne directrice, c'est
ça. Quoi ?
Kane qui va pouvoir être en position de centre. Le centre pour Kylian Mbappé ! Et c'est rentré ! C'est au fond !
Pour lui, une exemplarité, un professionnalisme.
Il y a Dembélé qui est servi maintenant sur le côté gauche en 1 contre 1 avec Upamecano. Dembélé, oh le but !
Je vais pas être plus pragmatique que pragmatique. Ça va rentrer dans notre réflexion avant de prendre les décisions en vue de cette Coupe du Monde.
Ah, je savais que ça allait te faire.
On t'embrasse, Didier. Bien sûr qu'on l'aime, Didier.
Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'il a apprécié le match ? Ça, on le saura un peu plus tard.
Change.
En revanche, ça lui donne sacrément des mots à la tête, puisqu'on a vu un Olivier exceptionnel mardi soir. Un Dembélé également omniprésent, buteur, passeur décisif. Vu le niveau de ces deux joueurs, est-ce que Mbappé doit encore être le leader des Bleus ? On vous attend au 32-16 dès maintenant. Et puis le WhatsApp RMC aussi pour vos messages, 06-12-424-424. Juste avant de vous entendre, les amis, on va écouter Fabrice Hawkins qui est avec nous. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fab.
Parce que Fabrice, il va suivre les Bleus pendant cette Coupe du Monde.
Mais pas que.
Qui commence pour l'équipe de France le 16 juin face au Sénégal.
Il est partout, Fab.
et Fabrice, on est d'accord que pour Didier Deschamps...
C'est un faucon, il survole.
De toute façon, il n'y a pas de débat, Mbappé est intouchable.
Ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est clair et net. Hein. C'est toujours l'homme providentiel des Bleus, celui qui est capable de faire basculer les matchs. Sur ses 6 dernières rencontres avec les Bleus, il a marqué 6 buts pour 3 passes décisives. Donc son influence, l'influence du capitaine des Bleus est réelle. Et il a la confiance de Didier Deschamps qui, et vous l'avez remarqué d'ailleurs, fait en sorte de toujours le mettre dans les meilleures conditions. Dans le vestiaire, il est globalement apprécié parce qu'il reste quand même accessible dans son rôle de capitaine. C'est avec Ousmane Dembélé, les leaders naturels de ce groupe. D'ailleurs, il n'y a pas de problème de leadership avec le Ballon d'Or, et il n'y en a pas non plus avec Michael Olise qui ne revendique rien et qui vient d'arriver lui en équipe de France plus récemment. En tout cas, Kylian Mbappé sait qu'il est très attendu pour cette Coupe du Monde, et c'est le cas pour toutes les grandes compétitions de l'équipe de France depuis qu'il porte ce maillot.
Merci beaucoup Fabrice, tu peux rester avec nous pour participer à ce débat. Donc intouchable pour Deschamps, on l'a compris, mais selon vous, est-ce que ça doit être encore le leader d'attaque quand on voit les prestations cette saison et en cette fin de saison de Dembélé, notamment d'Olise et Jérôme ?
Non, la gestion elle doit être différente, mais moi j'ai pas attendu la saison d'Olise encore pour dire ça. Moi je le dis quand j'ai vu la saison dernière de Dembélé. Dembélé est Ballon d'Or, donc automatiquement quand tu es un Ballon d'Or de cette façon-là, il est pas Ballon d'Or parce que il a fini meilleur Pichichi ou Soulier d'Or. Pichichi, mais il est Ballon d'Or parce que il a excellé dans plein de choses, déjà il a rayonné dans une équipe parisienne où c'était le leader technique, le leader de Luis Enrique, et il l'a bien rendu, et je pense en effet qu'avec ce statut-là et les performances de Ousmane Dembélé, automatiquement, tu peux pas vivre dans l'ombre de Mbappé sur le terrain. Je te parle pas dans le vestiaire, parce que moi, j'en ai rien à faire. Que Didier Deschamps, il pense que le capitaine de vestiaire, c'est Kylian Mbappé. Ok, on connaît très bien la personnalité de Kylian, comment il est. Donc c'est pas un capitaine forcément rassembleur, très rassembleur, même s'il se force à le faire par rapport à d'autres. Après, t'as différents capitaines, et Jean-Michel est bien placé pour le savoir parce qu'il a été capitaine une grande partie de sa carrière. D'accord. Donc, mais pour moi, Kylian Mbappé, tu peux pas lui demander aujourd'hui, quand tu vois le niveau des joueurs autour de lui, d'être le leader technique de cette équipe de France, le leader d'attaque comme tu l'as dit. Pour moi, non. Il n'est pas leader d'attaque. Il est là. On doit jouer sur ses points forts. On a l'avantage d'avoir un mec qui est très efficace et qui marque beaucoup de buts. Pas de problème. Il est là pour ça. Mais à côté de ça, t'as une structure d'équipe à mettre en place. Et pour moi, Didier Deschamps, il doit
après,
donner.
Il a fait quand même.
Oui, mais.
Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Kylian, je veux dire, quand tu vois ce qu'il fait.
Non, mais moi, je l'adore, hein. Tony.
Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu dis là, c'est dur. Après, moi, j'étais le premier à dire certaines choses aussi.
Non, mais attends, Tony, je finis juste sur le truc. C'est pas grave. T'as le droit de m'interpeller et de pas être d'accord. Mais je dis juste que c'est pas réducteur ce que je dis. Je minimise pas les performances de Kylian Mbappé. Il met 50 buts, 60 buts dans une année. C'est fantastique. Il y a pas de problème. C'est ce qu'il y a de plus dur de marquer des buts. Mais à côté de ça, t'as une structure d'équipe à mettre en place. Et pour moi, comme toutes les générations, et c'est pas le football moderne qui change, ça a toujours été comme ça. T'as des leaders techniques, des leaders qui te permettent de d'augmenter le niveau global de l'équipe, le niveau général de l'équipe. Et ces leaders-là, c'est les certainement leaders. Pas Kylian Mbappé, parce que quand tu vois Ousmane Dembélé et maintenant Olysée, mais mon Dieu, quand il touche le ballon, les deux, et surtout Olysée dernièrement, on l'a encore vu au parc mardi soir, mais c'est incroyable. C'est incroyable le toucher de balle, il sait tout faire. Et en effet, j'ai pas honte de dire que ce que fait Olysée ou ce qu'a fait et ce que peut continuer à faire Ousmane Dembélé, et il y en a peut-être d'autres qui peuvent se greffer aussi en équipe de France, Kylian Mbappé n'est pas capable de le faire. Donc pour
oui,
moi,
tu vois,
pour...
de la même façon, juste excuse-moi, juste je,
vas-y, vas-y, vas-y.
Parenthèse, de la même façon que qu'on a dit de Mbappé, tu sais, quand il est arrivé, qu'il fallait justement prendre le temps, pas trop aller vite. Moi, je serais pareil. T'as tout à fait raison sur ce que tu dis sur les performances aujourd'hui d'Olysée, de Dembélé. Elles sont extraordinaires. Et il faut en parler, il faut les mettre en avant. Mais je pense qu'il faut les laisser arriver dans l'équipe. Aujourd'hui, tu voudrais sortir
Mbappé, ça fait un moment quand même qu'il est dans l'équipe.
Non, après, parce que
oui, mais ce que
il a peut-être un rôle le plus important à jouer maintenant dans cette équipe de France.
Si tu veux, moi de la même façon que j'ai dit par exemple quand ils ont mis Mbappé capitaine, pour moi c'était la place de Griezmann, tu vois, et à l'arrivée on est en train de faire la même chose aujourd'hui. On veut, si tu veux,
mais moi je vais pas retirer le casque. Vas-y Jean-Michel.
Moi, c'est ce que je pense.
Capitaine.
Il y a des constats à faire. Il y a des constats à faire. Il y a des décisions à prendre. Et il y a quand même des résultats concrets dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, est-ce que quand l'entraîneur de l'équipe de France, d'abord, je ne pense pas qu'il ait des maux de tête.
Non, François, au contraire, c'est quand même mieux.
Je pense qu'il vaut mieux avoir cette attaque-là que celle de 98 qui avait été championne du monde. Quand
pas
même,
de maux de tête, mais des problèmes de riches.
Sympa pour Anthony, pour Guy Varche et pour Dugarry. Voilà.
Il n'y avait pas
pour moi seulement.
Je veux dire simplement que le pauvre Guy Varche a pas mis un but dans toute la compétition.
Ouais. Bon, quand on parle de casse-tête, Captain, c'est bon, que allez, à un moment
restons,
donné.
Restons, sur, voilà. Restons aujourd'hui.
Est-ce qu'on met Dembélé dans les meilleures dispositions? Est-ce qu'on met Olysée dans les meilleures dispositions?
Mais c'est évident. C'est évident parce que si tu mets pas Dembélé dans les meilleures dispositions, ça veut dire que tu le mets sur le côté droit.
C'est ce que fait Deschamps, c'est ce qu'il a fait lors du dernier rassemblement, par exemple.
C'est peut-être là que je suis pas d'accord avec Didier, avec qui je suis très souvent d'accord. Mais si tu mets Dembélé sur le côté droit, tu mets plus Olysée sur le côté droit, qui est son côté préférentiel.
Ouais.
Donc, si tu veux, en prenant cette décision, tu déranges ou tu troubles deux personnes, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a des décisions à prendre. Moi, je vais vous en soumettre. Est-ce qu'il est exclu lorsqu'il a commencé sa carrière?
Il jouait sur le côté. Mbappé.
Kylian Mbappé. Il jouait où?
Sur le côté.
À gauche.
Il jouait quel côté?
Il jouait à droite.
Il a joué à gauche. Et de mémoire, puisque tu connais bien l'AS Monaco, est-ce qu'il n'a pas joué parfois en 9,5
si,
autour de Falcao?
Bien sûr, c'était ça. C'est quand il a appelé la place de Valère Germain.
Est-ce qu'il est interdit de penser que dans une équipe très offensive, tu mettes une attaque à deux pointes qui s'appelle Dembélé parce que tu ne vas pas le mettre à droite? C'est là où il a les occasions de but, mais où il ne met pas de but. Tu vas quand même pas te couper de cet avantage. Tu mets une attaque à deux. Olysée reste sur son côté droit, d'accord,
ouais.
Et à gauche, en espérant qu'un jour, Barcola confirme son attaque. Là, tu as une attaque, une équipe très offensive. D'accord.
Ouais.
Mais rappelez-moi, au témoin d'un doute, il n'y a pas des matchs où on hurlait d'ailleurs au sacrilège. Si c'est pas Barcola, ça peut être également Doué.
Ouais.
Enfin, c'est là où il y a les maux de tête.
Ça peut être Rabiot aussi.
On n'a pas eu des très bons résultats avec occupant le côté gauche, plutôt un milieu de terrain
gaucher.
Il pouvait s'appeler Matuidi ou Rabiot, un truc comme ça. Ça n'a pas existé dans la vie.
Rabiot est encore là. Hein.
Ça n'a pas existé dans la vie de
l'équipe
de France.
Bien sûr, ça pourrait.
Mais moi, je pense que sur une équipe solide et costaud techniquement, Didier, il est capable de faire ça.
Mais écoutez, je pense que c'est une solution en laissant et Dembélé et Olise. Ouais. Alors je m'en moque moi du leadership de ceci, de cela.
Bah, c'est important.
Non mais le leadership, arrête, si, Jean-Michel, tu le sais très bien. Non mais Jean-Michel. Là, on joue sur les mots, et c'est juste pour pas essayer de mettre un mot fort sur les choix de Didier Deschamps, sur le fait d'avoir mis Kylian Mbappé capitaine. Mais franchement, il faut être très clair avec les gens qui connaissent le foot, et on en fait partie. Quand Olise et Dembélé touchent le ballon, il se passe des choses bien plus importantes que quand Kylian Mbappé touche le ballon en décrochant.
Ben, ça me semble. Et tu sais, la vérité du terrain, souvent, elle rejaillit sur toute l'équipe.
Hein.
Et
oui.
Et les gars, ils n'ont pas besoin de dire c'est moi le leader.
Ah ben non, mais c'est sûr, mais c'est naturel ça.
Ouais. Moi, quand je vois le match de Olise là, ça m'est égal qu'il soit pas leader ou pas leader.
Il sera leader technique.
C'est le cadet de mes soucis.
Il sera leader technique.
Le leader technique, là, je vous pose la question. Vous avez joué
mais
au foot
ça veut
au
dire
niveau.
Quoi le leader technique?
Est-ce que c'est celui, par exemple, qui touche le plus de ballons?
François, tu es extraordinaire. François, tu es en train de nous dire que le leader technique est là pour punir les autres. C'est-à-dire que le leader technique, il va jouer avant-centre, et que comme il joue avant-centre, Dembélé ne peut pas jouer avant-centre, donc il va jouer sur le côté droit.
Si tu adaptes ton équipe pour Mbappé, forcément, peut-être que les autres touchent moins le ballon, par exemple.
Mais tu te racontes ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que celui qui marque des buts, qui va être, qui est encore dans les meilleurs attaquants du monde, puisqu'il a été blessé cette année, qui est Ballon d'Or, pour faire plaisir à Mbappé et pour je sais pas pour quelle raison, mais je connais pas la raison là, je la vois pas bien. Tu vas pas le faire jouer à la place où il est le meilleur?
Pourquoi il ne pourra pas jouer derrière Mbappé?
Bah c'est ce qu'il dit. Non, c'est ce que Jean-Michel dit.
C'est ce que je dis.
Non mais oui, Mbappé, bien sûr.
Je veux dire que Dembélé jouerait derrière, parce que moi je trouve que Dembélé défend 10, plus. Ouais, derrière et qu'il tournerait autour.
Mais ça, après, c'est une question de mise au point, Tony. Mais
je trouve qu'il défend mieux. Je trouve que Dembélé défend plus que Kylian.
Oh, à ce jour, on voit plus Dembélé en effet demi que Mbappé en effet demi.
Exactement.
C'est vrai. Mais dans un match, l'un n'empêche pas l'autre s'il y a une complémentarité. T'as Olise à droite. Et puis, match difficile, tu mets un milieu de terrain gaucher, un piston à gauche, plutôt défensif. Match plutôt facile, tu mets un Barcola ou un Doué à gauche.
Ouais, c'est vrai. Mais
tu
peux aussi admettre, et là, je pense qu'il le fera pas, mais tu peux aussi, dans ta réflexion, Jean-Michel, et Tony, je pense que tu as la même, quand on connaît Didier, et qu'en effet, le mot, lui, c'est pas déséquilibre, c'est équilibre d'équipe. Quand tu perds le ballon, il faut vraiment être bien équilibré sur la largeur, sur ceci. Je l'ai eu, il a pas évolué. Hein. Il est toujours resté le même. Quand tu parles avec les joueurs aujourd'hui, dans le vestiaire, le discours qu'il a sur les causeries d'avant-match, c'est exactement les mêmes qu'on avait, nous, à l'époque, en 2002, 2003, 2004.
Ça a pas trop mal réussi, quand même.
Non, mais attention, c'est pas une critique, Jean-Michel. Au contraire, même c'est son point fort à Didier. Il sait que les équipes, si elles sont bien équilibrées, il a plus de chances de gagner que de perdre par rapport à sa vision des choses. Mais dans ces cas-là, comme tu le disais très justement, il faut mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Donc Dembélé, il est plus à l'aise dans l'axe aujourd'hui par rapport à avant quand il jouait côté droit. Olise, au lieu de le faire jouer en numéro 10, c'est côté droit parce qu'il fait. Tu lui donnes une certaine liberté en plus, parce qu'Olise, en étant côté droit, on l'a vu avec le Bayern, il est capable de venir dans l'axe, il est capable de venir décrocher, il sait tout faire.
Il le met dans l'axe.
Et après, si c'est un problème d'équilibre, il faut accepter aussi que ton buteur, ton finisseur, parce que celui qui marque le plus de buts, c'est les stats, c'est comme ça, c'est Kylian Mbappé, se replace sur le côté gauche pour équilibrer ton équipe et éviter, si tu veux, à Rabiot, qui va jouer à milieu axe gauche, de se décaler à gauche. Mais est-ce que ça, il acceptera de lui dire?
Bah oui.
Écoute, il a bien mis. Non, ouais. Non, mais il a bien mis. Le dernier qui a joué côté gauche, c'est le malheureux Ekitike, me semble-t-il.
C'était Ekitike, effectivement. Ouais. Ouais. Ça, c'était lors de match de préparation.
Est-ce que Ekitike est un joueur côté gauche ou un avant-centre à Liverpool?
C'est un avant-centre.
Plutôt devant, ouais, avant-centre, bien sûr.
Donc je pense que le capitaine, si c'est un vrai capitaine, si c'est un grand capitaine, et pour l'équilibre de son équipe et pour le bien de son équipe, si un jour Mbappé, on lui demande gentiment et sans le déclasser de jouer un peu côté gauche comme jouait un peu Cristiano Ronaldo au Real Madrid,
oui, oui.
Du temps de Benzema, comme il jouait au début de sa carrière à Monaco, de jouer un petit peu côté gauche, est-ce que vous pensez qu'il est obligé de prendre ça comme une terrible vexation de bouder et de se mettre dans son coin?
Le connaissant un peu, je pense qu'il va bouder, du moins. C'est pas le connaissant personnellement, c'est que on voit l'attitude, Jean-Michel.
Le problème est plus grave que je l'imaginais.
Je suis d'accord, mais sauf que tu l'entends dans ses déclarations et même de lui et de son entourage. Lui, il se voit encore comme un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il n'est pas dans les meilleurs joueurs du monde.
C'est pas le meilleur joueur français actuellement.
Mais c'est sûr que non. Et est-ce que c'est grave de le dire? Est-ce que c'est grave de dire que Olise Dembélé et encore attention, Doué va arriver bientôt.
Jérôme, même ça me gêne quand tu dis si c'est le meilleur joueur du monde, peut-être dans les meilleurs joueurs du monde. Si tu es capitaine, à un moment donné, pour le bien de ton équipe, et sans que ça nuise véritablement à ta carrière, au contraire, je dirais, d'accepter certaines obligations, certaines contraintes pour le bien de l'équipe.
C'est fini cette mentalité de penser équipe. C'est aujourd'hui, on le sait, je veux dire.
Alors je suis un vieux con.
Écoute.
Jean-Mi, un vieux capitaine de la vie, je me permettrais. Ouais. Non mais c'est le football d'aujourd'hui, il faut s'adapter. Je veux dire, à un moment donné, c'est la vérité. Je veux dire, moi je suis comme toi, je pense comme toi.
Je suis abasourdi.
T'es un vieux con, tu l'as dit.
Non, je me permettrai pas.
Tony,
il te l'a dit.
Ça y est.
Moi, c'est sur le positionnement, en fait, je voulais ajouter simplement que c'est aussi parce que les entraîneurs, Luis Enrique avant lui, et puis Didier Deschamps, estiment qu'il fait pas suffisamment d'efforts défensifs, et il l'a reconnu lui-même dans une interview récemment. Ouais. C'est aussi pour cela qu'ils le mettent avant-centre. C'est-à-dire que c'est pas forcément lui à la base qui s'est dit je vais aller jouer dans l'axe. C'est plutôt les entraîneurs partant du constat qu'il défendait un petit peu moins et qu'il était moins enclin à faire ces replis-là, qu'ils l'ont naturellement repositionné dans l'axe. Après cet été, je pense un peu à l'image de ce qui s'est passé contre le Brésil dans le match amical du mois de mars, je pense qu'ils vont permuter, c'est-à-dire qu'il va se retrouver tantôt à gauche, tantôt dans l'axe, et il y aura pas de position figée, et c'est ce qui a fait la force aussi de cette équipe de France qu'on a vu là sur le dernier rassemblement, c'est-à-dire que ce soit Olise, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, malheureusement il est blessé, mais ce sera Désiré Doué, Cherki ou Barcola, ils ont cette capacité avec Ousmane Dembélé à permuter.
Oui, mais okay. Sauf que la pour finir là-dessus, ouais, sur ta réflexion, Fabrice, c'est que quand tu vois Luis Enrique et comme tu dis ce qu'il a pu mettre en place avec Kylian Mbappé en disant je le mets dans l'axe parce qu'il fait pas assez d'efforts sur le côté, à l'époque, c'était quasiment le meilleur joueur français. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas, Fabrice.
Mais il doit faire des efforts. Je suis persuadé, il doit faire
beaucoup plus d'efforts et surtout accepter ce que disait Jean-Michel et même Tony. Et moi, je le dis aussi, accepter ce que Didier Deschamps va mettre en place pour tirer le max des meilleurs joueurs de cette équipe de France.
Mais justement, parce qu'il y a un Ousmane Dembélé aujourd'hui Ballon d'Or, un Michael Olise qui a ce niveau-là, et parce qu'il porte le brassard de capitaine, je ne peux pas imaginer qu'il fasse pas les efforts. Et sur les derniers rassemblements, on a quand même vu que quand il fallait courir, il le faisait un petit peu plus qu'il y a quelques années.
Écoute, je souhaite.
C'est terrible, un footballeur professionnel qui court, c'est vachement étonnant.
Alors, on n'a pas le temps de prendre ses briques.
Moi, j'ai hâte de voir quand Olise va mettre un doublé et que il va avoir toutes les éloges du monde sur lui. Je vais voir la réaction de Kylian Mbappé si Kylian n'a pas marqué de but.
Bon, voilà. On suivra ça, notamment avec Fabrice. Fabrice, d'être passé.
Salut, Fab.
Et bien sûr, on suit ce dossier. Le premier match des Bleus, ça sera le 16 16 juin face au Sénégal, début de la Coupe du Monde le 11 juin.
On sera là.
Parler de tout ça et de la façon
de préparation d'abord.
De gérer cette équipe de France. Bien sûr, il y a des matchs de préparation à partir aux États-Unis pour l'équipe de France. Il y a deux matchs de prépa. Dans un instant, tiens, on va continuer de parler du Paris Saint-Germain parce que évidemment, il y a eu une mauvaise nouvelle hier. On vous en parlait en direct dans Rotten sans flamme. C'est la blessure et forfait d'Achraf Hakimi. Certains pensent que c'est une catastrophe. On fait le procès de ceux qui pensent que c'est une catastrophe dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. On est là. On est bien dans Rotten sans flamme. On passe une excellente émission. Grosse première demi-heure. La deuxième, elle sera encore meilleure. Donc restez bien à l'écoute. Vous êtes nombreux à nous écouter, nombreux sur la route. Bon, donc courage. Faites attention. Bon courage pour nous écouter. On est avec François Pinet.
Bon courage
sur
la route.
Oui, vu la première demi-heure
peut-être
de François, je comprends.
Nous disent bon courage.
Voilà, bon
pour
courage.
Nous écouter
aussi. Et Jean-Michel aussi. Jean-Michel Larquet, Tony Verret. Très bon,
dit.
Très, très bon, Tony. 18h45.
Avec nous. Oui,
on
parce
parle,
que.
On parlera de Griezmann.
Griezmann, évidemment, un sujet qui nous passionne.
Ah, bah oui, oui.
Tu ne reviendrais pas en équipe de France.
Arrête tes conneries.
Voilà. Bon, écoute, en tout cas, Edgar Grollo a vu le match hier, il l'a commenté, Atlético de Madrid, Arsenal, et il a dit qu'il avait le niveau international. Donc c'est ce qu'il veut te dire.
Il a
le niveau
vu ce
international.
Match de Griezmann parce que.
Non mais
il a l'impression qu'il
très
découvrait
bon. Homme
hier.
Du match hier. Ouais. Homme du match hier. Ouais, on en parlera avec lui
nous dire.
À 18h45. Mais d'abord, tu le sais, à cette heure-ci, on ouvre les portes de ton tribunal, le tribunal Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
Mais tu veux que je te passe un film de comment tu jouais? Toi, tu harcèles qui toi, sur un terrain de football? On te parle des joueurs qui se dépensent sur un terrain de football.
Ben ouais,
toi, des efforts, tu pouvais même jouer tous les jours. Quoi. Il sait même pas que c'est faire un pressing, il te parle d'efforts. Mais je peux lui dire, tu peux jouer le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. On s'en fout des jours d'écart.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ah, on a une pensée évidemment pour Roland Courbis dans ce studio. Roland Courbis.
Bien sûr.
Hier, on vous donnait en direct l'info du forfait d'Achraf Hakimi pour le match retour contre le Bayern, déchirure au niveau des ischios qu'ils laisseront de côté pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Certains s'inquiètent énormément pour le PSG à cause de cette blessure. Ils pensent que c'est une catastrophe. On va faire le procès de ceux qui pensent justement que cette absence est catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Avec monsieur le procureur Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat de la défense, maître Larquet, maître Verrel, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et le verdict au 32-16 avec un juge impartial, comme toujours. Adrien est avec nous. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Salut Adrien.
Higouin est là ?
Ouais, c'est pas Adrien Higouin, je pense pas Adrien, on est d'accord.
Non.
C'est un autre Adrien.
Non.
Voilà.
Allez.
Supporter du PSG. Tu vas bien nous écouter et tu vas donner ton verdict à la fin de ce procès. Pour vous, monsieur le procureur Rotten, cette absence d'Hakimi n'est pas du tout une catastrophe pour le PSG?
Non, mais il aurait fallu peut-être présenter la chose différemment, dans le sens où Hakimi.
Je suis d'accord, capitaine, ça commence.
Je suis pas en train de dire que la présence ou pas d'Hakimi ne change pas la façon de voir de Luis Enrique. Je dis juste que le fait que Hakimi ne soit pas là, c'est pas la première fois de l'année, parce que malheureusement, il a eu une année compliquée avec cette fameuse blessure à la cheville contre le Bayern Munich au mois de novembre. Il a eu du mal à revenir, il a fait une canne moyenne, il était mieux sur la fin. Là, en effet, Achraf Hakimi récupère un très bon niveau, et on l'a vu, il a fait un très bon match mardi soir, comme il avait été très bon à Liverpool et contre Chelsea. Et c'est un élément important du dispositif de Luis Enrique. Maintenant, vu qu'il y a eu déjà pas mal d'absences depuis le début de l'année de Achraf Hakimi, contrairement aux autres années, il y a un joueur qui s'appelle Zaïre Emery. Ça a permis à Zaïre Emery de se relancer après une année dernière un peu compliquée où il était plus en régression qu'en progression. Là, il faut reconnaître que Zaïre Emery, dans ce rôle de arrière droit pour compenser l'absence de Hakimi, il a été surprenant, rayonnant même, parce que c'est quelqu'un qui aime le duel, et donc naturellement quand tu te retrouves défenseur d'une équipe, que ça soit dans l'axe ou sur le côté, t'es souvent dans du 1 contre 1 voire dans du 2 contre 1, donc il faut être intelligent comment récupérer le ballon et gagner ses duels. Il l'a fait admirablement bien, tout le monde était unanime pour dire qu'il avait bien remplacé Hakimi sur cette longue absence, et puis derrière ça a permis à Zaïre Emery de retrouver une place de titulaire au milieu de terrain à la place de Ruiz, parce que il a gagné en confiance avec ce poste de latéral droit pour gagner des duels au milieu de terrain, et on l'a vu encore contre le Bayern Munich, il a été très intéressant là-dedans. Donc
moi, je pars du principe que c'est pas grave en soi de revoir Zahir Emery arrière droit.
Ok.
Du moins, d'autant plus quand tu vois la stratégie du Bayern Munich le mercredi soir. Quelle va être la stratégie du Bayern? Le Bayern, il faut qu'il remonte un but, voire deux s'ils veulent se qualifier directement avant avant les prolongations et éventuellement les tirs au but. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te harceler comme ils ont fait une grande partie du match au Parc des Princes. Ils vont te harceler, ils vont y aller, il va y avoir des courses. Luis Diaz, le latéral gauche, alors je sais pas si ça sera Laimer ou ça sera Davis, mais bien sûr qu'ils vont dédoubler. Mais franchement, défensivement, aujourd'hui, j'ai plus confiance à Zahir Emery qu'à Achraf Hakimi, qui est un super joueur, un super contre-attaquant. Mais pour défendre dans du 1 contre 1 sur le côté droit, je pense que Zahir Emery est supérieur à Hakimi de ce côté-là. Bon. Donc moi, il n'y a pas de problème.
Okay.
Arrêtez de nous dire, oui, oh là là, Hakimi n'est pas là, ça y est, c'est problématique. Moi, je ne fais pas partie de cela. Et surtout qu'en plus, le fait que Zahir Emery rejoue à droite, il va redonner sa chance à Ruiz, qui s'est, lui, reposé, plus que reposé, depuis trois mois.
Écoute, parole à la défense, maître Larquet.
Non, alors, catastrophe, il n'y a jamais de catastrophe dans une équipe, mais il y a des coups durs. Et pour aller rencontrer, et pour aller se mesurer avec le Bayern Munich, il me semble que c'eût été mieux que le Paris Saint-Germain et toutes ses forces. Or, cette absence m'interpelle et m'ennuie, d'abord parce que elle est aussi... comment dirais-je, concomitante, voilà, je cherchais le mot, avec une baisse de régime qui m'inquiète de la part de Nuno Mendes. Donc, là où je trouvais qu'il y avait les deux meilleurs arrières latéraux du monde, eh bien, on était revenu à des arrières latéraux qui étaient un petit peu en souffrance, mieux pour Hakimi, mais en souffrance pour Mendes. En face, il y a quand même des joueurs d'exception, que ce soit Olise d'un côté, que ce soit Diaz de l'autre. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le titulaire, même avec un Fabian Ruiz qui est revenu en état de jouer, je pense que dans la tête de Luis Enrique, le titulaire s'appelle Zahir Emery et non pas Fabian Ruiz, et que ça va, me semble-t-il, un petit peu désorganiser. Alors on parle éventuellement d'un Marquinhos à droite, mais est-ce que c'est Zabarni qui va jouer dans l'axe?
Oh là là, ah oui.
Oh là là, c'est bien ce que vous dites, oh là là. Je pense qu'effectivement, c'est un problème qui se pose à Luis Enrique, et je répète, quand tu as en face de toi une équipe du niveau du Bayern, que tu as fait un match du niveau Paris Saint-Germain-Bayern à l'aller, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu aies toutes tes forces, et il me semble que l'absence d'Hakimi entraîne un affaiblissement du Paris Saint-Germain. Bon. Tout simplement.
Il y a un deuxième avocat, la défense.
Oui, non, mais ça va être
devenu
ça.
En force.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Mi. C'est sûr qu'une équipe comme le PSG, elle a d'autres armes. Elle peut pas tout miser sur un joueur et quand il y a un blessé, ça y est, le bateau coule. Mais à un moment donné, ça va quand même désorganiser. À un moment donné, Zahir Emery va passer arrière droit, si c'est le cas. Et il va falloir remettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est pas une catastrophe.
Ah, merci.
Mais comme le dit Jean-Mi, c'est quand même un coup dur, un sacré coup dur pour moi.
Ouais.
Mais voilà. C'est pas une catastrophe.
J'ai respecté les temps.
Hein. Bravo.
C'est pas une catastrophe.
Oui,
donc, ils m'ont donné raison.
C'était tellement facile d'argumenter.
Non, mais l'argument de captain de dire que là, tu vas te présenter peut-être avec un milieu de terrain. Certes, qu'on a vu très beau la saison dernière, Ruiz, Neves, Vitinha.
Ils ont juste été champions d'Europe.
D'accord, mais sauf que Ruiz.
Ruiz,
sa rentrée contre le Bayern, je ne sais pas si elle t'a rassuré quand même.
Vous avez
mardi.
Tu t'es rassuré, tant mieux.
Rassuré.
Adrien va me donner raison.
Comme Nuno Mendes est un peu moins bien, t'as qu'à mettre Hernandez à gauche aussi.
Mais c'est vrai qu'un match avec un tel rythme, c'était très facile pour les remplaçants de rentrer devant la Goretzka s'il était bon.
Parce que mercredi, ça va être un rythme plus lent, tu penses, pour Fabien?
Non, mais il sera pas remplaçant, il sera titulaire. C'est complètement différent.
L'intensité sera quand même forte.
Non, mais c'est complètement différent, François.
D'accord.
Je te jure.
Adrien,
tu vas voir.
Non, mais moi, je joue régulièrement, hein, mais pas au même niveau, certainement.
Je crois au juge Adrien.
Mais moi, au bout de 20 minutes, c'est terminé. Adrien.
Et encore.
Oui. J'ai bien entendu un peu tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde va un peu dans le même sens. Moi, je vais aller du côté de Jérôme, quand même.
Ah, oui, merci.
Je vais aller du côté de Jérôme.
Ça, c'est l'exporteur du PSG qui parle.
Aujourd'hui, de mettre un Zaïre Emery en forme, comme il est à droite, sur un match de Ligue des Champions retour avec un but d'écart, je suis pas choqué. Moi, je trouve ça même très bien. Ça va assurer une position défensive assez intéressante du Paris Saint-Germain. Juste, moi, j'aurais un petit souci au milieu parce que je pense que Fabien Ruiz, faut pas du tout le mettre. Aujourd'hui, c'est pas le joueur en forme après 4 mois de blessure. Donc, moi, je mettrais plus un Doué dans le milieu avec un Barcola à droite. Et qui va revenir défendre avec Zaïre Emery. Donc moi je vais aller du côté de Jérôme, mais je mettrai pas Fabien Ruiz dans le milieu pour la compo. Donc,
petite nuance quand même du juge Adrien, Doué au milieu de terrain. Après c'est sûr
qu'il est capable de le faire. Il l'a fait, bien sûr, on l'a vu.
Exactement. Après ça te prive d'options offensives sur la fin de match, quoi. Voilà, sur la deuxième partie du match.
Barcola aujourd'hui il est en pleine forme. Moi aujourd'hui Ruiz. Alors, c'est sûr que c'est pas simple, je pense, de rentrer dans un match avec une telle intensité, mais il a fait une entrée catastrophique. Il va faire une faute sur Olivier à gauche qui sert à rien. Il prend un jaune. Il était à contre-coup partout. Moi, aujourd'hui, après 4 mois, même s'il va jouer, contre Lorient, mais bon, le milieu de Lorient,
parce que si
c'est à Vergel et à Gadiou, donc c'est pas Goretzka ni Kimmich, etc. Bon. Donc moi, je mettrais plus un Doué et je pense que Zaïre Emery, il est en pleine forme. Et je le laisserai sur le côté droit et avec le système de jeu.
Je l'aurais laissé au milieu, moi.
Ok. Bon, ouais, allez, il a départagé tout le monde, Adrien. Et c'est une bonne histoire dans le procès.
Merci, Jérôme Bretagne. Merci beaucoup, Adrien,
d'être venu dans le procès.
On les a pliés, les deux.
Comme Adrien, 32-16, pour rejoindre l'équipe de Rotten sans flamme qui va s'enflammer sur Antoine Griezmann.
Michel était un vieux con.
Comment ? Il a osé ?
Ouais. Ah ouais, moi j'aurais pas osé.
Mais bon. Moi je suis lucide. Hein.
Allez, dans un instant.
Non, mais moi je l'aurais pas fait.
Allô Jérôme, on parle de Griezmann niveau international hier. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC. Eh ben, on continue dans Rotten sans flamme en votre compagnie. Vous êtes nombreux sur les routes. Faites attention, restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. On se régale. C'est la meilleure émission sur le foot du PAF. Donc,
on a un excellent Tony Vérel, un excellent capitaine.
Voilà, ils sont là ce soir.
Profitez de
Tony et de Jean-Michel. Profitez de François qui fait une belle semaine à part ce jeudi. Voilà. C'est un peu un jeudi noir là pour François.
C'est beau ça, Jérôme qui dit faites attention sur la route.
Bah oui. Ah mais Tony.
Faites attention sur la route.
C'est vrai, faites attention sur la route.
T'as déjà pris la voiture avec Jérôme, Tony. T'as déjà pris la voiture avec Jérôme.
Surtout ne pas déplacer le 220.
Non mais. Respecter les limitations de vitesse.
Visiblement, c'est du vécu. C'est du vécu.
C'est important. Et pour ça, c'est quoi ? C'est bien. Je passe le bonjour à la gendarmerie et à la police de Carnac.
C'est toujours bien de profiter de l'émission pour le faire.
Carnac, magnifique. Auré, Van, ils ont été merveilux. Ils m'ont bien reçu.
Ils m'ont bien reçu.
Et ben, je les embrasse. La voiture.
Il y a ta photo, ils sont vraiment merveilleux. Ils font un métier incroyable.
Il y a ta photo partout là maintenant là-bas. Ouais. T'es une star là-bas.
Écoute, franchement, les échanges se sont très bien passés.
C'est magnifique. On les embrasse. À 19h, le foot de demain doit-il forcément ressembler à PSG Bayern ? Grand débat que l'on va avoir. Donc soyez avec nous. 32-16 pour nous rejoindre le WhatsApp RMC. Vous êtes très nombreux d'ailleurs. Je vous remercie, 06 12 424 424. Mais d'abord, Jérôme, à cette heure-ci, je crois qu'on veut te parler. Il y a un appel pour toi.
RMC, Rotten sans flamme.
Très heureux. C'est vrai que beaucoup d'émotions quand on est rentré, les supporters ont lancé les papiers sur le terrain. C'était très beau. J'ai bien gravé ça dans ma tête, dans le cœur. Et puis, après, on a dû jouer au foot.
Allô, Jérôme.
Et oui, vous l'avez entendu, Antoine Griezmann, c'était la dernière hier en Ligue des Champions pour Antoine Griezmann à domicile au Metropolitano. Après ce match nul, un partout entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Et Edgar Grolot veut revenir sur cet événement. Salut Edgar.
Salut François. Allô Jérôme.
Salut Thomas.
Salut François. François. Salut Edgar.
Toi t'es bien aussi pour ton jeudi. Hein.
Ça va
bien
avec le prénom.
C'est Edouard. Non, ça.
Edouard, François. Edgar,
non, c'est contagieux, c'est contagieux.
Edgar,
c'est
comment tu vas?
François, là, on va pas s'en sortir.
Bon, non mais Edgar,
Edgar, t'as retrouvé les lunettes apparemment.
Ah, on est bien.
Donc là, t'as aimé Griezmann. Bah, t'as aimé Griezmann niveau international.
J'ai aimé Griezmann.
Ouais.
Bien sûr.
Donc t'as pas regardé sa saison en fait.
Sur le match d'hier, t'as vu un Griezmann niveau international, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire à Jérôme.
Oui, bien sûr. Bien sûr, hier, il est niveau international. Si on m'avait dit il y a un an que Antoine Griezmann jouerait 90 minutes à ce niveau-là en demi-finale de Ligue des Champions, et je le répète, 90 minutes sans sortir à 35 ans face à l'une des meilleures équipes d'Angleterre, ça c'est évidemment ce qu'on appelle un joueur de niveau international. Sa soirée, elle est géniale parce que, comme on a entendu dans le petit jingle, il a vraiment réussi à profiter pendant l'hymne de Ligue des Champions.
Il regardait
toute l'ambiance. Voilà, il manquait le petit but, il a touché la barre, il manquait évidemment surtout la victoire de l'Atlético. On a vu aussi sur son visage qu'il avait été très très heureux de remporter le titre de meilleur joueur du match. Mais oui, il était à un niveau international, et si on réfléchit à l'équipe de France, même si son chapitre est terminé avec l'équipe de France, est-ce qu'il a le niveau pour jouer une Coupe du Monde aujourd'hui? Oui, indéniablement. Est-ce que il y a mieux que lui offensivement en équipe de France? Oui aussi, parce que tu peux citer l'armada offensive qu'on a devant chez les Bleus. Il y a énormément de joueurs. Je pense que dans 99% des sélections dans le monde, voire dans toutes les autres sélections du monde, on se dirait mais on peut pas se priver d'un joueur qui est aussi important pour une équipe en demi-finale de Ligue des Champions. En équipe de France, c'est quand même différent, surtout que son.
Et comme pourvoyeur de ballon, je peux dire que ça serait pas mal. Hein.
Ah toi, tu ne serais pas contre qu'il sorte de sa retraite internationale parce qu'il l'a annoncé en 2024.
Et bien sûr. Tu sais, dans un groupe, quand tu pars faire une Coupe du Monde, on a bien rappelé Baggio à un moment donné, on a bien rappelé des joueurs qui sont quand même des emblèmes de leur pays et moi je trouve. Pourquoi on pourrait pas? Pourquoi pour cette Coupe du Monde là et même s'il joue un petit peu moins, mais si à un moment donné on a une blessure,
en concurrence avec la jeunesse de Cherki par exemple, c'est
ouais non mais je trouve
déjà
que
des
ça
joueurs
serait...
comme Cherki qui sont sur le banc.
Oui, mais ce que je veux dire par là, un mec comme ça, il ne peut que t'apporter. Je veux dire, c'est avec son expérience, enfin je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Après, ça c'est mon avis. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein.
Non, mais t'as raison.
Après, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, François, c'est que beaucoup appellent aussi à ce qu'on rappelle Antoine Griezmann en tant que milieu de terrain, comme on l'avait vu notamment lors de la dernière Coupe du Monde.
Mais exactement.
Il ne joue pas milieu de terrain. Il ne joue pas milieu de terrain, donc c'est aussi différent. C'est quelqu'un qui joue vraiment attaquant avec l'Atlético.
Sur le match d'hier, il est revenu
au même
quand
niveau
même.
Ah ouais, milieu de terrain.
Par contre, c'est vrai.
Oui, il descend beaucoup.
C'est vrai que.
Et hier, ce qui est impressionnant, c'est sa qualité de technique et sa capacité à être dos au but, de se retourner, de faire la passe.
Le coffre qu'il a encore.
C'est vraiment impressionnant.
Alors, Jérôme?
Non, mais moi, je suis pas surpris. Du moins, il a eu un début de saison compliqué parce qu'il jouait moins avec Diego Simeone. Il a regagné une place de titulaire dernièrement. Il lui fait extrêmement confiance. La preuve, c'est qu'hier, il a joué tout le match.
Ah oui.
Donc, même si c'était un moment peut-être symbolique pour lui, c'était son dernier match de Ligue des Champions à domicile. Donc, je pense qu'il a voulu.
Il lui a pas fait un cadeau, hein.
Je pense qu'il a pas
fait pour le faire plaisir.
T'as raison. Il a pas fait pour le faire plaisir. Après, il aurait pu.
Il a été préféré à Sorloth quand même. Hein.
Bien sûr. Bien, c'est une demi-finale de Ligue des Champions.
Non,
hein.
Tu
mets pas quelqu'un pour lui faire plaisir.
C'est clair. Après, je pense que si c'est un match classique et qu'il y en aurait eu d'autres, peut-être qu'il l'aurait sorti à un quart d'heure de la fin pour le préserver, pour faire.
Ah, mais ça en dit long, justement.
Non, mais ça en dit long sur ce qu'il a fait déjà sur le match d'hier. Et là, je te rejoins, Edgar. En effet, dans ce match où il y a eu beaucoup trop d'erreurs techniques pour moi, des deux côtés, hein, vu le rythme du match et vu le niveau de ce match-là, on était en droit d'attendre que les transversales, les passes, les centres soient de meilleure qualité que le match d'hier. Et ce qui a malheureusement...
Certains contrôles.
Franchement, il fallait se mouiller la nuque par rapport au match. Alors la veille, en effet, là
c'est
on
ça,
était,
peut-être qu'on compare
on était,
avec la
non
veille
mais
aussi.
On était à l'extrême, c'est vrai, entre le PSG et le Bayern. Mais je vous garantis, Edgar, Jean-Mi et Tony, j'étais au stade. Alors à la télé aussi, tu vois bien. Mais au stade, c'était incroyable. Ouais. Les enchaînements techniques, les contrôles orientés, les transversales, c'était un régal du début jusqu'à la fin. Très ouais, très peu de déchets.
Dit, hein.
Hier, en effet, il y a beaucoup trop de déchets. Et le seul joueur qui amène très peu de déchets. Il a raté de trois remises, de trois passes.
En début de match. Mais, ouais, début après, il s'est mis dedans et il était très, très propre.
Mais après, c'est vrai qu'il ouais. est d'une propreté, mais c'est l'Antoine qu'on aime. Et c'est pour ça que là, en effet, c'est une anomalie de pas le voir avec l'équipe de France. Il est encore du niveau. Dans un groupe de 26, me dites pas qu'il ne mérite pas d'y être. Du moins, il pourrait apporter sa qualité qui est différente des autres joueurs. C'est pas un mec, en effet, comme Cherki, comme Olysée, on disait, il va prendre le ballon, il va dribbler les mecs et tout. C'est pas ça, Antoine Griezmann. Mais par contre, c'est clinique, c'est efficace, c'est la fluidité du jeu.
Mais tu le prends pas pour faire 5 minutes par match.
En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il est parti. De l'équipe de France, pas pour les bonnes raisons, d'accord ? Déjà, c'est mon avis. Et d'autre part, c'est que dernièrement, on parle éventuellement d'un retour d'Hugo Lloris en numéro 3.
Oui, j'ai vu ça, oui.
D'accord ?
J'ai vu ça.
Bah, t'es d'accord, Jean-Michel ? On parle d'Hugo Lloris qui avait dit stop, fin de carrière.
Si on parle du retour de Lloris, on peut parler de.
Ah, bah, exactement.
On peut évoquer le retour.
C'est pas le même rôle, un troisième gardien.
Non, mais
arrête,
c'est pas parce qu'on en parle que ça va arriver aussi.
Non, bah, ça c'est sûr.
Oui,
c'est sûr,
évidemment. Mais bon,
on parle du retour de Griezmann, ça arrivera sûrement pas non plus.
Le retour de Jérôme Rotten.
Il y a plus de chances de voir Lloris, je te le dis.
Pourquoi pas le retour de Jérôme, de Captain.
Quand on voit le match d'hier. Aujourd'hui, c'est pas pour se faire plaisir et pour se dire ah bah tiens, on aimerait bien que Griezmann soit là.
C'est pour ça qu'on voulait en parler avec Edgar Grelot.
Sur le match d'hier, il y a qu'un mot moi qui me vient à l'esprit pour qualifier le match de Griezmann, c'est il a fait un match intelligent. Et quand on parle des footballeurs qui ont tout dans les jambes mais rien dans la tête. Eh bien, moi, je voudrais montrer Griezmann un exemple parce que hier, il a fait un match d'une rare intelligence dans les déplacements, dans les choix de des joueurs démarqués, dans la dose, le dosage de ses passes, dans ses contrôles. Et c'était, moi, c'est le terme qui m'est venu tout de suite.
Mais c'est ce qui caractérise quand même.
Je sais pas si c'est pour cela qu'il a été élu joueur du match. Mais j'ai trouvé que ce qu'il faisait, c'était propre, c'était.
Eh ben, c'est pour ça qu'on voulait en parler.
Ça respirait l'intelligence.
Effectivement, avec Edgar Grelot qui est venu donc dans Allo Géro. Merci Edgar.
Bravo Edgar.
On le retrouve.
C'est comme vous respirez l'intelligence. Donc c'est...
On respire modestement.
Modestement, c'est vrai.
Edgar, on pue le foot.
Je me dis, si j'ai un truc comme ça, prochaine fois, vous aurez mon prénom.
Mais Edgar, c'est vrai que quand tu interviens avec nous, t'es quand même. T'es brillant.
Il est illuminé.
Ça fait plaisir.
Merci.
Edgar, on le retrouvera en plus. C'est pour ça aussi qu'il dit ça, c'est parce qu'on va le retrouver à 19h30. Ah ouais. Tu sais qu'il est à Madrid pour notamment suivre Rayo Vallecano.
Ah ça.
Strasbourg. Donc dans un instant, il va nous parler.
Terrasse. Il est
du Rayo Vallecano. Ça sera à 19h30 avant cette demi-finale de Conference League.
Il mange les pipas là.
Allez, restez avec nous. Alors c'est pas mal ça. Moi j'aime bien.
C'est dégueulasse.
Bon après ça laisse beaucoup de trucs derrière.
Tapas.
C'est pas génial.
Dans un instant, on parle de ce PSG Bayern et surtout de la suite. Est-ce que le foot doit désormais ressembler à ça, à ce qu'on a vu mardi soir? Grand débat à venir à 19h dans Rotten sans flamme. Soyez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.